Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 29 avril. Nous reviendrons sur la visite de Gérard Larcher hier dans l'Est lyonnais, en particulier à Bron et à Décines. Emmanuel Macron doit présenter demain vendredi les perspectives de sortie progressive de restrictions anti-Covid. Les restrictions de circulation seront levées dès le 3 mai. Le couvre-feu devrait prendre fin le 2 juin. 5879 malades du Covid étaient encore hier en soins critiques. Le personnel des services de réanimation des HCL appelle à une grève le 11 mai prochain. L'ancien président socialiste de la région Rhône-Alpes a été entendu par la division financière de la PJ de Lyon dans le cadre de l'affaire Erail. Il s'agit bien sûr de Jean-Jacques Kerran. Nouveauté au TCL, la possibilité à la rentrée en septembre d'acheter votre ticket directement avec votre carte bleue sur la borne de validation. À Caluire, la maison Sainte-Claire est en cours de construction sur un terrain appartenant à l'ordre franciscain des Clarisses. C'est Habitat et Humanisme qui est à l'origine de ce projet destiné à accueillir des sourds et malentendants et des seniors. Reportage dans cette édition.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, les glaciers de la planète ont en moyenne perdu 267 milliards de tonnes par an et ce depuis 2000. Plus inquiétant encore, selon des chercheurs, outre le fait d'être massive, cette fonte s'accélère. Cette récente étude a été menée par des spécialistes français du Centre National de Recherche Scientifique, du Centre National de Recherche Spatiale, de l'Institut pour la Recherche et le Développement de l'Université de Toulouse et par d'autres chercheurs internationaux. L'ampleur de l'accélération de la fonte a pu être mesurée avec précision à l'aide du satellite Terra. 500 000 d'images captées par le satellite depuis l'an 2000 ont permis d'évaluer la colossale perte de masse de la totalité des glaciers de la planète. Les glaciers situés en France ont connu un sort similaire ces 20 dernières années. Les glaciers fondant le plus rapidement se trouvent en Islande, en Alaska, mais aussi dans les Alpes, selon cette étude. Sans surprise, la cause de ce recul des glaciers est le réchauffement climatique et la hausse des températures sur la planète. Le changement de plus en plus brutal et rapide de la répartition de l'eau à la surface de la Terre est aussi à l'origine d'une déviation de l'axe de rotation de la Terre. Gérard Larcher s'est rendu hier à Bron pour évoquer les violences et menaces auxquelles doivent faire face certains élus. 10 maires de la métropole lyonnaise ont fait part au président LR du Sénat des pressions subies de par leurs fonctions. Pour Gérard Larcher, face aux violences dont sont victimes certains élus, la réponse pénale doit être forte et systématique. Gérard Larcher.
Ça ne peut pas se banaliser. Voilà pourquoi la réponse de la justice doit être particulièrement ferme sur ce sujet. Nous ne devons plus avoir de plaintes quand elles sont fondées qui soient classées sans suite. Et là, c'est prévu dans le texte que nous venons de voter, c'était prévu dans Engagement et Proximité, et les deux gardes des Sceaux successifs ont envoyé des circulaires au parquet. Il faut considérer qu'à chaque fois qu'un élu est agressé et que les faits sont constitués, c'est la République qui est mise en cause.
Gérard Larcher hier à Bron. Emmanuel Macron doit présenter ce vendredi les perspectives de sortie progressive des restrictions anti-Covid dans un entretien à paraître dans la presse quotidienne régionale. Jean Castex a confirmé que les restrictions de circulation seront levées dès le 3 mai, que le couvre-feu devrait prendre fin le 2 juin. Les membres des bureaux de vote des élections départementales et régionales seront prioritaires pour la vaccination, a indiqué le ministère de l'Intérieur, tout en demandant que soient d'abord sollicitées des personnes vaccinées, donc des personnes de plus de 50 ans en l'occurrence. Le nombre des malades du Covid-19 hospitalisés a repassé hier sous la barre des 30 000 pour la première fois depuis début avril. On compte encore 27 000 cas positifs par jour en moyenne, ces 7 derniers jours. 5879 malades du Covid étaient encore hier en soins critiques. La France a enregistré 324 morts supplémentaires liées au Covid-19 en 24 heures. 6 cas positifs au Covid-19 parmi les surveillants ont été détectés depuis mardi à la prison de Saint-Quentin-Fallavier en Isère où est détenu notamment Nordal Lelandais. Ce foyer épidémique a été signalé hier matin à l'Agence régionale de santé. Comme le veut la procédure, aucun cas n'a été signalé parmi les détenus et ce cluster n'a pour l'instant aucun impact sur la détention ni sur les extractions judiciaires, notamment celle de Nordal Lelandais. Le personnel des services de réanimation et des soins critiques des hospices civils de Lyon appelle à la grève le 11 mai prochain. Le syndicat CGT réclame notamment une meilleure reconnaissance du travail effectué ainsi qu'une revalorisation des salaires. Le personnel réclame également une réévaluation du ratio soignants en lit avec une augmentation du nombre de lits en réanimation.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
L'ancien président socialiste de la région Rhône-Alpes a été entendu par la division financière de la PJ de Lyon dans le cadre de l'affaire Erail. En début de semaine, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a été condamné à payer 10 millions d'euros aux créanciers de l'association liquidée en 2015. Une enquête préliminaire avait été ouverte en octobre 2016. Des chefs de favoritisme, prise illégale d'intérêt et abus de confiance. Erail était largement subventionné par la région Rhône-Alpes. Sa mission était de favoriser l'exportation des entreprises locales à l'international. Elle a été liquidée suite à un vote contre de l'Assemblée régionale, supprimant une subvention de 4,7 millions d'euros. Erail avait été créé en 1987 par l'industriel Alain Mérieux, à l'époque premier vice-président de la région. Fin 2014, Erail disposait de 27 antennes dans 21 pays et employait 214 salariés, dont 52 au siège lyonnais. Nouveauté au TCL, il vous sera possible à la rentrée de septembre d'acheter votre ticket TCL directement à la borne de validation. Ce service, progressivement installé dans les bus, les tramways puis dans les stations de métro, est en cours de déploiement. 4000 nouveaux valideurs sont en cours d'installation dans les bus, les trams et ensuite dans les stations de métro. Le renouvellement complet de la billettique est prévu pour 2022, l'année prochaine, avec la disparition des tickets magnétiques au profit de tickets sans contact rechargeables.
Lyon demain ? Écoutez ma différence.
Nous étions des moniales contemplatives d'abord, mais on vivait de notre travail. Alors on avait un atelier de fabrication de scie important. Parce que non seulement on fournissait Lyon alentour aussi, mais on envoyait des caisses, disons, de scie. Alors à ce moment-là, on appelait les Nouvelles Hébrides, c'est Wallis et Futuna maintenant. Hein. Ce qui suppose qu'il y avait, à peu près 8, bien largement 8 sœurs qui étaient employées là. Il y avait un très grand jardin, on cultivait, alors on avait les légumes, on avait même une ferme, des vaches, des petits porcs. Donc on a cessé quand même ça dans les années 70, quelque chose comme ça. Et on avait beaucoup d'activités quand même.
Sœur Marie est l'abbesse du monastère des Clarisses à Caluire. Elle vit ici depuis 1968 et connaît parfaitement ce lieu où l'on a l'impression que le temps s'est arrêté. Perché sur les hauteurs de Vassieux, le domaine comprend une chapelle, un grand parc de 4 hectares et quelques logements. Depuis quelques années, l'ordre franciscain des Clarisses, toujours propriétaire du terrain, cherchait à ouvrir ce lieu aux plus pauvres. Toutefois, les projets d'implantation de logements sociaux dans ce quartier cossu n'ont jamais abouti. Mais cette fois, le vœu des sœurs est exaucé. La maison Sainte-Claire, actuellement en cours de construction, accueillera des sourds et malentendants, un public un peu oublié. Habitat et Humanisme, qui pilote le projet, veut ainsi combler un vide. Bernard Devers, président d'Habitat et Humanisme.
On les appelle d'ailleurs les sourds muets. Alors en fait, ils sont muets parce qu'en fait, ils n'entendent pas. Hein. Et donc toute la question, c'est en fait précisément de découvrir qu'ils ont aussi une langue, la langue des signes. Et donc naturellement, si on n'apprend pas cette langue des signes, en fait, on les laisse muets. Et donc il y a véritablement une invitation à une ouverture et donc à se mettre à les entendre pour comprendre aussi finalement quels sont leurs besoins. Et donc c'est vraiment le sens de cette opération. Il y a de la complémentarité, là il y a de la synergie et bien finalement il y a des possibilités de mieux vivre ensemble. Et là nous sommes au cœur précisément d'Habitat et Humanisme, bâtisseur de liens.
Au total, 20 logements, dont 12 accueilleront des personnes sourdes et malentendantes, disposant de faibles ressources, mais aussi 8 logements destinés à des seniors. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Michael Fauty, responsable d'opération pour la foncière EHD, Entreprendre pour humaniser la dépendance.
C'est une résidence donc de 20 logements sociaux. Une grosse majorité de logements sont des logements très sociaux et qui va accueillir pour partie des sourds et malentendants en recherche d'autonomie, donc qui habitent dans des foyers, mais par défaut, parce qu'ils ne peuvent pas accéder à du logement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de propositions. Et l'autre partie, ce sera un béguinage, une forme d'habitat qui accueille des personnes âgées et qui vise à être une alternative aux EHPAD et aux maisons de retraite. Enfin, donc on va faire cohabiter l'ensemble des 20 logements, deux types de publics qui se complètent par le projet. Un qui veut se maintenir le plus longtemps possible dans le logement et un qui veut accéder pour la première fois à un logement.
Au quotidien, qu'est-ce qui va se passer ici ?
Et ben, en fait, on a des salles d'activité, on aura une équipe dédiée qui viendra animer le lieu. Le béguinage, ça animera avec des bénévoles d'Habitat Humanisme, mais il y a aussi l'objectif de créer une dynamique entre les locataires, donc accompagnés hein, par nos bénévoles et par des professionnels, notamment l'IRSAM, qui est l'association qui intervient sur les sourds et malentendants, qui nous accompagne, qui est une association lyonnaise historique et voilà, qui viendra faire un appui aussi sur le projet.
Il y a un vrai besoin pour ce public sourd d'avoir un accueil comme ça, d'avoir une résidence.
Alors il y a un besoin d'avoir accès à du logement surtout, parce qu'aujourd'hui les logements ne sont pas forcément adaptés au handicap, et puis les bailleurs sociaux sont sont pas toujours ouverts à accueillir des publics sourds et malentendants. Donc oui, il y a un vrai besoin de créer ce type de logement un peu individuel, mais en même temps un peu en semi-collectif pour accompagner la première location.
Quels sont les équipements spécifiques qu'il faut pour accueillir ce genre de public ?
Alors, il y a beaucoup d'équipements visuels, puisque c'est des choses toutes bêtes, mais c'est un interphone avec un signal visuel et pas un signal sonore, ce qu'on a l'habitude d'avoir. C'est des équipements ensuite acoustiques, puisque une personne sourde malentendante fait plus de bruit, généralement, parce qu'elle n'a pas accès au bruit. Ensuite, c'est des équipements électriques et classiques qui sont rajoutés dans l'opération, mais qui sont toujours des équipements qui sont liés à du visuel pour prévenir en fait les locataires des usages. Ensuite, c'est une opération un peu particulière. Comme on a tout axé sur le visuel, on a énormément de fenêtres, d'ouverture sur l'extérieur, de lumière. On a des espaces beaucoup plus larges que habituellement. On a des circulations qui font 1,20 m, alors que généralement on est beaucoup moins que ça. Pour créer un côté aérien et côté visuel renforcé sur cette opération.
Le côté béguinage, alors qu'est-ce qu'on appelle le béguinage ? Je crois que c'est pas un terme qui est très utilisé ici dans la région.
Non, alors ça se développe de plus en plus. Le béguinage, en fait, c'est rassembler des personnes âgées qui ne veulent pas forcément aller en EHPAD ou en maison de retraite pour rompre l'isolement. C'est aussi une forme de mutualisation, puisqu'on va mutualiser les services de soins à domicile. On a des bureaux qui seront dédiés à ça. Donc c'est mutualiser aussi les services aux personnes. Et donc l'idée, c'est de créer une dynamique entre les résidents pour s'occuper du jardin, pour faire des tâches sur le site pour diminuer les charges et pour créer aussi une dynamique et prévenir pour le coup la perte d'autonomie et travailler sur la dépendance.
Ces deux publics sont donc très complémentaires ici.
Exactement.
Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter l'un à l'autre ?
Ah, ça c'est le projet qui le dira, parce que c'est un projet un peu nouveau. Ça serait un peu présomptueux de vous dire la recette et comment ça fonctionnera. Je pense qu'il faudra venir voir après au bout d'un an de mise en service. Mais l'idée c'est que ça se complète. On a deux grandes salles dédiées. L'idée c'est que les publics se rencontrent et qu'il y a des liens qui soient faits. Les personnes âgées, généralement, elles sont aussi parfois touchées par la surdité. Donc ce qu'on va mettre en place pour les sourds et malentendants jeunes adultes, ça marchera aussi pour les personnes âgées. Et l'idée, c'est de faire cohabiter les deux publics avec un projet global, qui n'est pas deux projets sociaux, mais bien un seul projet qui soit animé. L'avenir nous dira comment ça fonctionne.
La maison Sainte-Claire à Vassieux accueillera ses premiers occupants en 2022. Un mot de sport, Aslan Karatsev va participer à la 5e édition de l'Open Park Auvergne-Rhône-Alpes qui se déroulera du 17 au 23 mai. Classé 27e mondial, le Russe est auteur d'une saison assez incroyable. Sur 22 matchs disputés, il en a remporté 17 pour 5 perdus. Et parmi ses victoires, on retrouve celle contre Novak Djokovic, numéro 1 mondial, dont il s'était défait en demi-finale du tournoi de Belgrade la semaine dernière. Karatsev s'était ensuite incliné en finale face à un certain Matteo Berrettini, 10e mondial, et ce dernier sera lui aussi présent à l'Open Park dans quelques jours. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.